Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h39 dans quelques instants, le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes du jour. Et en attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin avec la revue de presse de Benjamin
Kress? Oui, en attendant, Philippe Bilger, Benjamin, alors avec des mots forts qui reviennent dans les journaux au lendemain de l'attentat de Nice.
Et oui, d'abord le mot barbare à la une de Midi Libre ce matin. Le Figaro reprend d'ailleurs la barbarie islamiste se déchaîne contre la France, moins de 2 semaines après le drame de Conflans. Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle à l'unité, il promet la fermeté. Autre mot qui revient beaucoup, c'est l'horreur, un terme qui s'affiche notamment à la une de La Provence. Libération, de son côté, s'inquiète de cette spirale de la terreur. Le fanatisme frappe encore, retient l'Indépendant de son côté. Dans l'édito, Pierre Mathis évoque le contexte dans lequel ce nouvel acte intervient. Appel au boycott dans les pays arabes, opportunisme irresponsable du président turc Erdogan, complaisance envers la violence du président iranien, hypocrisie du grand imam de la mosquée El-Azhar du Caire qui appelle à criminaliser les actes anti-islam. Tous, selon Pierre Mathis, ont à leur manière justifié le crime contre Samuel Paty et encourager l'attentat suivant.
Oui, et le football aussi concerné par cet attentat. La preuve dans l'équipe, le journal
d'équipe. Oui, indirectement, puisque le club de l'OGC Nice jouait hier soir en Ligue Europa, forcément dans un contexte très lourd. L'équipe a retenu donc ce titre en dialecte niçois, Paura Nissa, autrement dit pauvre Nice. Les joueurs niçois qui ont rendu hommage aux victimes de l'attentat. Les Aiglons portaient un brassard noir ensuite pendant le match, un match qu'ils ont remporté dans cette Ligue Europa 1-0, première victoire dans cette compétition face aux Israéliens d'Apoel Bercheva. En illustration dans l'équipe, cette photo est très forte avec 3 joueurs de Nice très émus, dont l'un d'entre eux est bien visiblement pris pour ses victimes.
Oui, absolument. On va en parler dans un instant avec Denis Carreau de Nice Matin qui est avec nous. Mais juste avant cela, Benjamin, certains journaux font le lien aussi avec l'autre actualité de ce jour, l'entrée en vigueur du confinement.
Oui, la France à l'épreuve, titre La Dépêche de midi, puisque Emmanuel Macron en appelle à l'unité des Français, non seulement après l'attentat de Nice, mais aussi pour ce confinement qui a démarré donc cette nuit à minuit. Terrorisme, Covid, la France sous tension, ça c'est le titre retenu par Le Parisien aujourd'hui en France, avec en photo ces policiers mitraillettes en main devant la basilique attaquée.
Ah oui, merci Benjamin Glaise. On file justement du côté de Nice avec Denis Carreau, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Patrick.
Oui, évidemment, Nice Matin qui revient sur ce qui s'est passé en fait encore hier à Nice, encore parce que évidemment c'est l'horreur encore à Nice. Hein.
Oui, encore effectivement, Nice a replongé dans le cauchemar et dans la folie terroriste avec cette nouvelle attaque en plein cœur de la ville, au sein même de la basilique Notre-Dame. Alors on revient très largement sur ce drame à travers 11 pages spéciales avec le récit de l'attaque, les témoignages et les premiers éléments sur le profil de l'assaillant. Nous nous intéressons évidemment aux victimes, avec notamment le portrait de Vincent Lequès, ce sacristain aimé de tous, égorgé au beau milieu de son église. Et là aujourd'hui, après le chagrin et les larmes et les hommages, c'est déjà le temps de la colère. À Nice, cible de 3 attaques terroristes en 3 ans, et de nombreuses voix s'élèvent, en premier lieu celle du maire Christian Estrosi, pour demander que la lutte contre le terrorisme change de braquet pour s'adapter à ce qui s'apparente désormais à une véritable guerre sur notre sol, une guerre qui fait de Nice une ville martyre, comme on le titre à la une, avec 89 morts depuis 2015.
Oui. Est-ce qu'il y avait un sentiment d'insécurité ces derniers temps à Nice, notamment? Est-ce qu'il y avait eu un redéploiement, parce qu'on sait que le niveau avait été relevé de menace des attentats?
Pas particulièrement et pas, j'allais dire, pas plus qu'ailleurs. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, tout le monde a en tête le risque et cette forme de terrorisme au coin de la rue, de terrorisme low cost. Mais il n'y avait pas de risque, en tout cas connu et identifié davantage à Nice qu'ailleurs. Mais on sait que c'est une ville qui est vulnérable désormais.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup et bon courage à vous, Denis Carreau. On va poursuivre dans un instant le petit déjeuner de l'actualité avec Philippe Bilger, Éric Revel. Tous vos témoignages au 0826 300 300. Donc pour revenir sur l'attentat de Nice et puis la menace qui est toujours bien là, avec des questions autour de l'état de droit, notamment ce que nous dira Philippe Bilger dans un instant. Et puis aussi le confinement. On n'oublie pas cet autre titre dans l'actualité. Nous en parlerons notamment sur un plan économique tout à l'heure avec François Langlais, le journaliste économique qui sera avec nous à 9h, puisqu'il vient vient de publier un livre aussi sur l'ensemble en fait des conséquences et disant que eh bien c'est une accélération de ce qui nous guettait déjà dans notre société capitaliste.
Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 8h44.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h46, merci d'être avec nous, c'est le petit déjeuner de l'actu. Dans une dizaine de minutes, François Langlet, le journaliste ouais. économique sera avec nous, quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. En attendant, Philippe Bilger est avec nous et Eric Revel.
Oui, absolument, et puis vos appels au 0826-300-300 pour réagir sur tous les sujets de l'actualité, n'hésitez pas à nous appeler. Philippe Bilger, bonjour.
Oui, bonjour.
Philippe, alors, vous revenez sur cet attentat, en fait, de Nice, avec une question hein, derrière, autour de l'état de droit. Parce que certains disent, oui, il faut revoir notre état de droit. Alors, nous, on a basé quand même toute notre société conçue sur cet état de droit. Donc, comment revoir, en fait, les choses, si c'est possible ?
Ça n'est pas d'aujourd'hui que je discute le caractère abstrait de notre état de droit. J'ai entendu tout à l'heure Patrick Roger et oui. l'entretien que vous avez eu avec François-Xavier Bellamy. Je ne suis pas loin d'approuver à 100% ce qu'il a dit. Ce qui me paraît important, c'est de considérer aujourd'hui que ce qui doit compter pour notre pays, ça n'est pas l'abstraction de principes inaltérables et intangible, mais il faut, et j'espère que le Conseil de défense le fera ce matin, il faut tout simplement se demander ce qui peut sauver la France, sa démocratie, concrètement, efficacement, et après, les principes auront à s'adapter. Il me semble que depuis longtemps, je perçois qu'un état de droit n'est pas seulement destiné à défendre les transgresseurs, mais à favoriser une sorte de sécurité collective qui aujourd'hui pose d'énormes problèmes. Ouais. Et donc, pourquoi ne pas considérer qu'il y aurait dans l'état de droit une part fixe, naturellement inaltérable, on ne juge pas deux fois les mêmes faits, ou bien on ne juge pas de manière rétroactive, mais pour le reste, il faut absolument dégager des pistes et trouver des solutions qui permettent à la France de se sortir des malfaisants qui veulent l'attaquer, qu'ils viennent de l'extérieur, comme ce Tunisien, ou qu'ils soient en ce moment tapis à l'intérieur pour commettre le pire.
Oui, c'est ça, parce que si ce que François-Xavier Bellamy disait déjà ce matin, puisque vous y faites référence, si on appliquait déjà notre loi, eh bien, il n'y aurait pas...
Il y aurait un gros travail de fait.
Oui, c'est ça, on aurait fait un grand pas, parce qu'il y aurait, il y a beaucoup de gens qui sont en situation en fait illégale, il y en a d'autres qui viennent et qui reçoivent en fait des autorisations, et là, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou que quand même, face à la menace qui... C'est plus qu'une menace, puisque ça explose en fait quand même aujourd'hui, il faut aller plus loin.
Mais je pense en effet, Patrick Roger, que déjà, c'est le grand problème français. On considère que lorsqu'on a voté une loi, on a accompli une action. Une loi ne devient réellement effective que si elle est appliquée avec rigueur. Et j'entends bien que si, par exemple, la France appliquait avec rigueur toutes ces lois en faveur de la sécurité, nous n'aurions peut-être pas besoin aujourd'hui, en effet, de réfléchir sur de nouvelles pistes. Parce que on ferait les deux en quelque sorte, et il est évident qu'il faudra faire la révision, pour moi elle ne sera pas déchirante, de la Cour européenne des droits de l'homme, de toutes ces instances qui vivent confortablement les malheurs des pays sur lesquels ils se penchent.
Hein, oui, mais alors sur cette Cour européenne des droits de l'homme, alors, parce qu'il y a des traités en fait qui nous lient.
Ben, il faudra accepter de les réviser ou de s'en retirer. Parce qu'il n'est pas normal que la Cour européenne des droits de l'homme pose à l'heure actuelle et depuis des années des règles et des principes dont le caractère théorique et abstrait est dévastateur pour la défense des pays. Au fond, je ne voudrais pas faire de la provocation, Patrick Roger, je rêverais qu'on remplace l'état de droit un petit peu sophistiqué, voire ridicule face à certaines menaces par le droit de l'État, le droit de la France, qui peut-être de manière provisoire viendra créer des règles et assurer des défenses qui seront enfin efficaces et qui sont réclamées par tous les Français d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Restez avec nous, Philippe Bilger. Éric Revel, vous vouliez réagir. Hein. Oui, Éric, toujours avec nous. Éric
Revel est avec nous.
Ah non, Éric nous entend. Oui.
Il est là, mais je pense que.
Éric, qui est en ligne en fait avec nous? Éric, il y a Claire aussi des Yvelines au 0826 300 300. Non, parce que vous nous appelez et vous pouvez réagir. Hein, donc Claire dans un instant. Philippe Bilger, donc sur ce que vous disiez, bah oui, il faut sans doute revoir en fait les choses. Est-ce que il y a eu aussi peut-être dans l'application en fait de la loi un certain laxisme mené par une forme d'idéologie de certains dans le monde judiciaire, Philippe Bilger?
Ah ben, il est clair que sur la criminalité et la délinquance ordinaire, il y a certains idéologues dans la magistrature qui ne comprennent pas qu'être magistrat, c'est assurer la tranquillité publique en appliquant rigoureusement la loi. Oui. Mais au-delà de ces idéologies judiciaires, je crois qu'il y a globalement, dans notre pays, dans ses tréfonds comme dans sa pratique superficielle, il y a une sorte de tentation de n'être jamais aussi ferme qu'on devrait l'être. Ouais, parce que, au fond, ça exige beaucoup de courage pour mettre en œuvre une autorité qui est permise par les lois, mais qui, évidemment, est totalement éloignée de la démagogie. Il y a l'état de droit dont je rêve, celui que j'ai évoqué à l'instant, il exige du courage, voire, j'ose le terme, une forme de brutalité légitime. On ne peut plus s'en sortir avec, on l'a dit assez souvent, des fleurs, des bougies, des vœux pieux, des injonctions. Et contrairement à ce que dit le président de la République, qui fait de beaux discours encore récemment, on n'est pas des gens extraordinaires parce qu'on est attaqué. Il dit souvent la France est attaquée parce qu'en réalité, elle porte de magnifiques principes. Ça nous fait, pardon pour la grossièreté, ça nous fait une belle jambe. Ce qui compte, c'est qu'on se défende et qu'on gagne. Et donc, le Conseil de défense de ce matin devra enfin trouver les moyens opératoires. Et puis après, l'état de droit d'aujourd'hui aura à s'adapter. Ce qui compte, c'est qu'on soit armé et qu'on se défende et qu'on gagne. Ça, c'est fondamental.
Oui, c'est vrai. Éric Revel, qui est en ligne avec nous. Et sur cet état de droit, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, le maire de Nice dans une interview en fait hier, hein, a dit qu'il faudrait sans doute revoir un peu les choses, quoi, qu'il ne faut pas hésiter à les bousculer.
La phrase exacte hier matin de Christian Estrosi, qui s'est évidemment rendu sur place, au-delà de la lutte contre ce qu'il appelle l'islamo-fascisme, et qu'on peut partager, sa phrase exacte c'est « il faudra s'exonérer des lois de paix ». Donc, on ne sait pas trop ce que sont que les lois de paix, mais s'exonérer des lois de paix, ça veut dire qu'il faut revoir effectivement le cadre de l'état de droit. C'est exactement ce que vient de dire Philippe, parce que sinon, on continuera à opposer une éponge en mousse face à des poignards. Donc ça n'aura jamais de sens. Donc la question de l'état de droit, elle se pose. Tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, Patrick Roger, que vous interrogez, a posé, à mon avis, vraiment de manière très claire, la question du flux migratoire. Alors, ça a longtemps été une question tabou, mais là, il faut bien... Enfin, je veux dire, on peut pas... On est obligé de l'aborder, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, ce Tunisien de 21 ans, il est arrivé il y a 3 semaines, 1 mois, en France, sans papier. Donc, la question migratoire, elle est posée. Et puis, il y a une autre question que posait hier Éric Ciotti dans nos spéciales sur Azur TV, c'est la question du droit d'asile. Là aussi, il faut vraiment qu'on fasse le ménage et qu'on revoie de fond en comble cette valeur tellement panachante de la France, pays des droits de l'homme. Mais la question du droit d'asile avec des gens qui utilisent n'importe comment cette question du droit d'asile, elle doit être revue de fond en comble. Donc quand Christian Estrosi dit il faudra s'exonérer des lois de paix, peut-être que, par exemple, la question du droit d'asile rentre dans ces lois de paix. Mais en tout cas, la question centrale, vous avez bien fait de la soulever, me semble-t-il, Patrick et Philippe, c'est celle de Qu'est-ce qu'on fait avec notre état de droit? On en est très fiers, c'est un pilier très important de la démocratie, mais est-ce qu'il faut un peu le revoir? Est-ce qu'il faut l'amender? Ça, c'est une question que tout le monde se pose depuis ce nouvel attentat à Nice. Et avec la personnalité, le profil de ce criminel, de cet assassin qui est arrivé il y a quelques jours encore via une île italienne en France.
Ouais, c'est vrai. D'où évidemment toutes ces remises en question. Est-ce que vous pensez, Philippe Bilger, vous qui connaissez parfaitement le monde judiciaire, hein, que on est prêt à bouger quand même dans le monde judiciaire pour essayer d'accélérer en fait les choses et répondre au défi qui nous est imposé?
On est prêt à bouger à partir du moment où le pouvoir politique donne des instructions claires et où nous avons un pouvoir qui est cohérent. Et je pense notamment, on ne peut plus se permettre d'avoir dans le gouvernement, dans le domaine de l'affaire régalienne, des ministres qui ne tirent pas dans le même sens. Mais si vous voulez me permettre, Patrick, de répondre une seconde à Éric Revel, je suis totalement d'accord avec les deux questions fondamentales qu'il a évoquées. Le droit d'asile est beaucoup trop généreux et surtout, ceux qui sont déboutés restent en France. Par conséquent, c'est un grave problème. Et deuxième élément, et là je suis peut-être trop pessimiste, il faut lutter absolument contre l'immigration clandestine parce que j'ai le sentiment que lorsque quelqu'un arrive au sein de la France, il est quasiment trop tard pour éviter le pire. Vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un du renseignement à quel point c'est difficile, et je suis peut-être trop catastrophique, mais je crois que il faut éviter qu'il vienne, sinon c'est presque irréversible. L'artisanat terroriste permet aujourd'hui à n'importe quel jeune malfaisant d'accomplir le pire. Je ne vois pas comment on peut prévenir ça.
Oui. Merci beaucoup Philippe Bilger, Éric Revel également. Éric, vous allez reprendre des spéciales évidemment sur Azure TV, hein, bien sûr, après ce qui s'est passé hier. On y reviendra d'ailleurs aussi tout à l'heure sur Sud Radio à 9h30 avec notre invité qui sera là sur l'église qui est touchée, hein, notre invité de 9h30,
Michel-Marie Zanotti Sorkin, qui est prêtre, hein, qui reviendra justement sur la religion en général et aujourd'hui ce qu'elle peut générer.
Oui, et puis des témoignages, hein, de gens qui seront avec nous et qui ont assisté en fait aussi à cela hier à 9h30. Donc vous pouvez continuer évidemment de nous appeler sur Sud Radio. Dans un instant, on va revenir aussi sur le confinement, les mesures en fait autour du confinement. D'une part, sont-elles bien acceptées? Nous verrons avec Frédéric Dabi, puisque nous avons une enquête IFOP fiduciale. Et puis, notre invité, François Langlais, sur l'économie. Qui va payer à la suite? Qui va payer sur un plan économique ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est possible? Comment s'en sortir? Est-ce qu'on peut se relever? Il y a des notes d'espoir. Il y a un constat très dramatique, évidemment, dans son livre, mais il y a des notes d'espoir. Nous verrons cela avec lui. Il sera dans un instant. Et puis, vous pouvez réagir, bien sûr. Vous nous appelez 0826 300 300. Aude vous attend.
À tout de suite, il est 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibus.
9h02, merci d'être avec nous ce matin. Vos appels 0826 300 300. Et on revient sur l'aspect plutôt économique du pays dans un instant avec François Langlais, Quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel.
Oui, François Langlais, bonjour.
Bonjour.
Qui va vraiment payer? C'est le sous-titre, hein, en même temps. Parce que c'est vrai qu'il y a le constat de ce que l'on vit aujourd'hui, hein, on va y revenir, mais il y a derrière toutes les conséquences. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs et puis vous pouvez nous appeler. Quand même, ça passe par des moments difficiles, mais il y a des notes d'espoir en fait à la fin. Parce que quand j'ai commencé à lire ce livre, je vais vous dire, j'étais un petit peu effondré. Oui. Et puis et derrière, bon, on se dit que c'est
une incitation à aller jusqu'au bout du livre.
Oui, non mais voilà, non mais c'est vrai. Bon, déjà sur ce qu'on vit quand même aujourd'hui là avec ce reconfinement, est-ce que ça va accélérer encore de nouveau les difficultés économiques? Forcément,
à court terme, il y a pas doute. Si vous voulez, on était sur le scénario d'une reprise progressive assez molle, hein, et notamment au quatrième trimestre. Les chiffres du troisième trimestre sont plutôt pas mauvais. mais le quatrième était un peu étouffé, et là, on repart clairement vers une deuxième récession, très significative, dans des proportions probablement moindres que celles du printemps, mais quand même assez profondes, d'où les mesures d'aide qui ont été annoncées hier soir par Bruno Le Maire et Jean Castex. On va mettre entre 15 et 20 milliards d'euros sur la table. Donc ça va permettre d'amortir le choc de façon assez importante. Mais c'est là où on débouche sur l'autre question. Parce que cette épidémie, elle a deux conséquences. Bah oui. La première, c'est l'effondrement de l'économie, pour des raisons évidentes qu'on comprend tous maintenant. Et la deuxième, c'est que justement, pour parer aux effets, au choc social, on dépense beaucoup, 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 beaucoup plus qu'auparavant.
Oui, c'est ça. Mais alors, il faut quand même préciser aussi qu'on n'est pas seul, en fait, dans ce bateau. S'il n'y avait que la France ou que l'Europe,
Vous avez raison, mais
il y a l'ensemble de la planète quasiment qui est concernée, avec certains qui s'en tirent mieux que d'autres,
oui,
mais quand même.
Non, vous avez raison. Après, tout dépend comment on regarde les choses. Oui. Le fait qu'on ne soit pas seul, ça peut être une raison pour ne pas s'inquiéter ou au contraire pour s'inquiéter encore plus.
Pourquoi?
C'est que, si vous voulez, la planète entière est engagée. Entière, pas tout à fait d'ailleurs, parce que la Chine, ça y est, elle a réglé le problème. Mais en tout cas, tout l'Occident est engagé justement dans des dépenses qui n'ont plus rien à voir avec la création de richesses. Et que ce qu'on peut redouter, c'est qu'il y ait un accident financier à cause de cela.
Oui.
C'est vrai que je me faisais la réflexion hier. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le stress collectif pour la perte du triple A. Vous vous souvenez de cette
affaire? Oui, bien sûr.
La note
c'est financière.
Pas si vieux. C'était l'hiver 2012. C'était la fin du quinquennat Sarkozy. Et à l'époque, pour 2 ou 3 milliards de dépenses supplémentaires, on risquait de perdre cette note, de voir les investisseurs privés s'en aller et puis de nous condamner à la faillite. Aujourd'hui, tout ça a complètement disparu parce que le marché de l'argent a été nationalisé par la Banque Centrale Européenne qui irrigue massivement tous les gouvernements en centaines de milliards d'euros d'argent frais.
Oui, et puis il y avait les fameux critères de Maastricht.
C'est vrai, tout ça c'est aux oubliettes.
Non mais tout ça c'est aux oubliettes. Est-ce que ça donne raison à ceux qui disaient il faut revoir en fait l'ensemble de ces règles européennes internationales?
Écoutez, pour partie, c'est vrai que ces règles étaient, parce qu'elles étaient rigides, à la fois dangereuses.
Ouais.
On les a appliquées à un moment où on n'aurait pas dû, et notamment dans la période 2010-2012, où ça a aggravé la crise dans la zone euro, ça c'est certain. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que sur le moyen terme, on ne peut pas dépenser durablement, considérablement plus que ce qu'on a, parce que on prend le risque. Si vous voulez, quand on regarde l'histoire, c'est très fréquent à l'échelle de l'histoire que les gouvernements.
Oui, mais c'est à l'échelle de l'histoire.
Oui.
C'est pas.
Quand on regarde sur les 500 dernières années, sur les 1000 dernières années, on voit des crises financières assez régulières. Mais le problème, c'est que on n'a jamais réussi à annuler la dette sans faire disparaître en même temps l'épargne. C'est les deux faces du même sujet. Parce que dès lors que quelqu'un s'endette, il y a quelqu'un qui lui prête. Si vous libérez le premier de sa dette, forcément, vous amputez le capital du deuxième. Et c'est ça qui me terrifie un petit peu dans les discours qu'on entend, mais cette fois-ci, c'est pas la même chose, on remboursera jamais.
On va pouvoir effacer. Mais qui détiennent justement les dettes?
Alors, là où justement ça a changé un peu de nature, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est la Banque Centrale Européenne en Europe, la Banque Fédérale aux États-Unis, la Banque du Japon au Japon.
Et puis des fonds de pension en même temps,
De moins en moins, justement. Ces investisseurs privés, ils ont disparu quasiment. Et il n'y a plus qu'une source principale de financement des États, c'est la création monétaire. Ça paraît absurde pour nous, mais si vous voulez, la Banque Centrale a le monopole de la création d'argent, c'est-à-dire que sur un ordinateur, elle prend son compte et au lieu de faire comme nous, de voir combien est là, elle tape le montant qu'elle souhaite avoir. C'est d'ailleurs une situation assez heureuse. Il n'y a que les banques centrales qui ont ce monopole-là. Et parce que nous les croyons, je veux dire, si je sors un billet de 20 euros et je vous le donne, vous n'aurez pas de doute sur le fait que vous pourrez le réutiliser 10 minutes après pour vous payer un café. Et le café lui-même n'aura aucun doute sur le fait que ce billet est vrai. Donc, notre foi dans la monnaie fait que nous croyons la Banque Centrale quand elle dit, voilà, je crée 500 milliards, je crée 1000 milliards, je crée 3000 milliards, et je vous les donne. C'est un processus qui n'est pas sans limite. Personne ne peut situer exactement la limite Pour autant, il est très
probable. Ça, on l'a jamais fait, quoi, dans l'histoire.
On l'a jamais. Alors, disons, on l'a fait sous des formes anciennes. Là, là encore, je fais appel aux souvenirs d'histoire que nous avons. Vous savez, du temps des rois, il y en avait des pièces d'or, et les autorités monétaires rognaient les pièces d'or pour récupérer un peu de limaille et fondre d'autres pièces. Bah, la Banque Centrale, c'est ça.
C'est un peu ça.
C'est la même chose, si ce n'est qu'elle le fait de façon technologique.
Mais je rebondis parce que vous en parlez dans le livre. Si on avait eu notre propre monnaie, forcément, on aurait géré la crise autrement.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est juste doublement, d'ailleurs, parce que si on avait eu notre propre monnaie, le franc, que l'Italie avait eu la lire, eh bien, d'abord, on aurait pu faire varier le taux de change en fonction du degré de gravité de la crise. Un taux de change, c'est un pare-choc. C'est-à-dire que, justement, il permet d'adapter la condition
de l'économie.
D'amortir. Et on avait besoin d'amortir plus que l'Allemagne. Donc, au total, on a un pare-choc collectif. C'est une espèce de moyenne. Et il amortit un peu moins bien pour nous, un peu trop pour l'Allemagne. C'est toujours la même chose. La monnaie unique, c'est le t-shirt à taille unique. Il est trop grand pour les petits et trop petit pour les grands. Et puis, l'autre élément, c'est évidemment que les pays qui ont leur propre monnaie et donc leur banque centrale, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, de fait, ils la contrôlent. Nous, on ne la contrôle pas. C'est une coopérative qui est possédée par les 19 pays qui font partie de l'Union monétaire. Et un jour ou l'autre, ça n'est pas le cas maintenant parce que tout le monde est dans le même bateau, il y aura un conflit avec nos partenaires sur l'utilisation de cet argent. Parce que la France, pour des tas de raisons, d'histoire, de tradition, est plus encline à la dépense que ne l'est l'Allemagne ou ne le sont les Pays-Bas. Et donc, le trésor de Francfort, en quelque sorte, fera...
Est-ce que ça veut dire que l'euro est menacé, alors, finalement, même à court terme, quoi, non ?
Je pense que sur le moyen terme, c'est une construction très fragile.
Ouais.
Je pense qu'il voulait... D'abord, jusqu'ici, alors on va voir ce que donne la deuxième vague, mais justement, il a accru les différences entre les économies, toujours, alors que nous avons la même monnaie. Et puis, il y a au sein de l'Union monétaire ce ferment de disputes, de désaccords entre les États.
Mais on n'aurait pas pu créer de l'argent comme on l'a fait, quoi, là, si nous avions été un peu seuls, parce que certains défendent l'idée d'être de souveraineté, mais...
Je ne suis pas sûr. Regardez...
C'est pas question. Hein,
ouais. Regardez, le Royaume-Uni le fait sans contrainte.
Ouais, hein. Ouais.
Les États-Unis, alors vous allez me dire, c'est un grand pays... Ils le font et dans des proportions encore plus importantes que nous, puisque le déficit américain va représenter cette année 3 000 milliards d'euros.
Ouais.
C'est-à-dire autant que la dette publique française. Donc, je pense que ça nous on aurait pu avoir les mêmes méthodes.
Ouais.
Mais surtout, l'avantage d'avoir une monnaie nationale, c'est que vous adaptez le taux de change à la situation exacte du pays. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, hein. Avant l'euro. Alors, bon, ça se payait quand même d'une façon, hein, c'est-à-dire qu'on avait plus d'inflation que les autres, on avait des dévaluations régulières. Donc, effectivement, l'épargnant était lui aussi par moments spolié, mais l'activité économique était beaucoup plus facile à réguler.
Ouais, bon, qui sont les perdants, les gagnants aussi? Parce qu'il y en a, forcément. Là, on est en plein dedans, quand même. On sait ce qu'on va voir dans un instant avec vous, hein, François Langlais, quoi qu'il en coûte. Qui va vraiment payer? On en parle dans un instant encore.
Et en attendant, Patrick, on a une gagnante, parce qu'il y a du positif
dans
ce jeu.
Ah oui, c'est vrai.
On perd de l'argent d'un côté, mais on en rapporte de l'autre. Et avec nous, Myriam au téléphone. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à vous. Je suis très contente de vous avoir, vraiment.
Ouais. Bah oui. Là, vous êtes la seule gagnante de la journée. Non, je plaisante.
Ouais.
La grande gagnante. Myriam, vous avez gagné une semaine en demi-pension pour 4 personnes dans l'un des 50 clubs Bellambra, à la mer ou à la montagne. Bon, alors, ça n'est pas tout de suite, hein, mais vous allez pouvoir prévoir vos vacances. Et vous allez partir où ?
Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas. J'aime la mer et la montagne. Donc, peut-être au Pays Basque.
Je suis originaire.
Mmh. Ah, très bien. Et vous emmènerez qui ?
Des amis, je pense.
Oui, parce qu'il faut notre autorisation, en fait. Vous partiez avec.
Ouais. L'attestation de Cécile de Ménibus. Oui,
c'est ça.
L'attestation du gouvernement pour se déplacer. Là, il y a l'attestation Ménibus.
Et vous nous écoutez depuis longtemps, Myriam ?
Pardon, excusez-moi.
Vous nous écoutez depuis longtemps ?
Oui, régulièrement, tous les jours. Et j'avoue que j'écoute... aussi de midi à 14h, Monsieur Berkoff.
D'accord.
Oui, André Berkoff. Ouais. Ouais. Mais il a pris 2-3 jours, là, mais il revient.
Il revient, hein,
pour
il
être en pleine forme. Oui. C'est Philippe David qui est là, évidemment.
Oui, c'est ça. Bon.
En tout cas, merci de nous avoir appelés. On vous fait un gros bisou. Prenez soin de vous et nous, on revient dans un instant.
Vous également.
À tout de suite, il est 9h13.